Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux livres de François Cavanna, deux rééditions de ses écrits. Virginie Vernet nous expliquera exactement de quoi il s'agit. D'un roman de Pierre Fréa qui se nomme Bella Ciao Istanbul. Et pour commencer, nous allons écouter un petit reportage fait par Loïc Kononski sur un livre d'Alexis Demuy, livre qui s'appelle « Propos en liberté ». Donc nous allons commencer donc en écoutant Loïc. À toi Loïc.
Voici la Terre 10 ans après. Un temps plus tard. Un fragment de ce qui, avant, était un tout. Il s'appelle encore ? S'il porte un nom, eh bien, dites-le-moi. Combien de personnes vivent ici ? Combien se dirigent par eux-mêmes ? Quand est-ce qu'ils apparaissent ? Ils ne sortent jamais ? Posez-vous donc les bonnes questions. Placez-vous dans la bonne direction. J'ai une proposition. J'ai trouvé un moyen terme dans le souvenir de l'amour pour faire revenir le goût. Les coups de bâton n'arrêteront pas. Je ne suis pas un petit garçon puni. Je viens faire barrage et mettre le feu à leur barricade.
Bonjour Alexis. Ce livre-là, c'est un peu un ovni en fait. Une sorte de dystopie en poésie narrative.
Qu'est-ce que t'en penses ? Parfait. J'aurais pas mieux dit, ouais.
D'accord.
C'est une ouverture, hein. C'est une ouverture sur en fait plusieurs registres. Hein. Ça laisse, l'imagination du lecteur faire son chemin.
Et peux-tu nous planter le décor de l'intrigue ?
On pourrait dire que c'est dans la tête, alors ça, c'est pas dit textuellement dans le livre, mais on pourrait dire que c'est dans la tête d'un complotiste, en fait. Hein. Ses espoirs, son utopie sur un monde à changer. Dès que quelqu'un parle de changer les choses, il est vu comme réfractaire et appelé du doux nom de complotiste, ce qui ne veut pas dire grand-chose.
Leur appartenir, avec une obéissance de cadavre, appartenir à leur fantôme comme un petit chien qui suce les morts ? Ça ne me regarde pas. Moi qui suis la vérité, moi qui suis son dernier mot, son ultime suite, j'ai de nouveau l'idée du peuple dans mes mains. Je reconstitue un principe, j'unis à nouveau les hommes avec leur honneur.
Alors, le narrateur, c'est l'imagination. C'est un narrateur pluriel, en fait. Partant forcément de ma singularité. Maintenant, singularité qu'on n'a pas finalement, puisque on est tous pluriels à travers la culture qu'on a, qui nous traverse. Qui parle ? Mettons, on peut l'appeler l'occidental, l'européen.
On est en mesure d'être écouté. On a pris en main le destin. Chez eux, on fémine, on féminise, c'est le genre. C'était le genre petit tricot, petit maillot, little, small, bien propre, à motif quadrillé de tôle.
On voit pas tellement sa paranoïa, au fait. On voit sa paranoïa parce qu'il vit dans un état policier. On comprend qu'il vit dans un état policier, mais...
Je suis d'accord, je force un peu le trait en disant complotiste. Hein. On va dire utopiste. C'est un récit de ressenti intérieur du narrateur.
C'était agréable, la promenade dans ce fracas d'oiseaux, la lumière sur les espaces vides, les gazons ancestraux d'où surgissent les siècles crevés. Autrefois, on savait de bien jolies danses.
On a l'impression que ça se passe après une catastrophe.
Oui, alors ça c'est vrai. Il y a une forme un peu de dystopie. Hein. C'est après la catastrophe, oui. Je prends peut-être un peu d'avance, mais enfin, on nous en parle, hein, de cette catastrophe. Voilà, donc on dirait qu'on est préparé. Oui, les gens sont très résignés. Hein. Moi, c'est comme ça que je le constate.
On aura fermé pour 1000 ans. Une porte claque, une autre s'ouvre. Quelqu'un entre. On aura tout laissé sur le bureau. Les clés sont dans la serrure. Nous revoilà. Cette fois-ci, on va s'expliquer. Dans un couloir oublié, tout est resté comme on l'avait laissé. Le vent a juste séparé les feuilles de papier.
Tu donnes des conseils quand même, des conseils de stratégie politique pour un révolutionnaire clandestin.
Bien sûr. Oui, mais regarde, par exemple, on utilise bon, des applications du style Telegram, Signal, enfin, etc. Et donc, c'est inclus pour la plupart des gens. Hein. Par contre, il pourrait y avoir des passages écrits par Trotsky ou Lénine. Ou...
Une des choses importantes qu'on ait à noter, c'est de ne rien laisser échapper à son attention. On doit pouvoir remarquer la moindre chose, en déduire la signification. Il faut beaucoup d'entraînement. Cela doit s'apprendre vite, en ville comme en forêt. Tu dois remarquer n'importe quel bruit anormal, n'importe quelle odeur particulière et essayer de comprendre ce que cela signifie. Que tes yeux se tournent dans toutes les directions, qu'ils remarquent tout par habitude, on doit savoir regarder à la fois de près et de loin. Que tes yeux ne se ferment pas.
Mais c'est un message qui est ressenti intérieurement, profondément, hein, intuitivement.
Et d'ailleurs, tu parles d'amour, quoi, en fait. Hein. Parce qu'il y a la clandestinité de l'amour, en fait, quelque part aussi.
Oui, oui, l'amour, c'est l'essentiel, évidemment. Hein. On le sait depuis Jésus-Christ. Hein.
Voilà. Et l'amour est un sentiment révolutionnaire, en fait.
Absolument. Absolument. Pour moi, Jésus-Christ, c'est aussi une figure de révolte, bien sûr.
Je m'examine beaucoup dans tes yeux pour réapprendre à comprendre le reste. Approche ton oreille par là. Viens plus bas que je t'explique. On ajuste ici, on rajuste plus loin. Tu as vu les maisons des pigeons ? Dans la vase, dans le vague. À l'heure qu'il est, je m'occuperai sans faire de bruit. Prends ton manteau, prends ta pelle, viens creuser dans le vide, dans ce sable. Une belle maison.
Tu stipules que tu es de la famille de Camille Julian.
Ouais, le neveu de Camille Julian, historien des Gaules.
Et pourquoi tu donnes ce genre de renseignements ?
C'est par rapport à l'ancrage, historique dans la France.
Mais ce narrateur, c'est qui ?
Oh, c'est moi, hein. Oui, alors bon, c'est aussi une oreille, en fait, une oreille de tout ce qui passe par l'époque, on va dire. De l'étau, quoi, sortir de l'étau, ouais. Hein, tu vois. Sortir de l'étau, se réveiller, se redresser, se rebeller.
Ouais, en tous les cas, merci de l'avoir écrit, parce que vraiment, c'est émouvant et intelligent, à la fois.
Moi, pauvre Dieu, mes doigts de toi sont pleins. Humain, je pense « je » et me demande « et maintenant ». Propos en liberté, roman d'Alexis Denis, préface Paul Ardenne, édition Unicité.
Et donc Paul Ardenne est un critique d'art célèbre dans les milieux de l'art contemporain. Et il a fait la préface de ce livre dont vient de nous rendre compte notre petit Tintin, notre petit reporter sur le terrain, Loïc Konanski. Merci à toi Loïc. Et maintenant nous passons à Cavana. Et Virginie Vernet, qui fut la secrétaire de Cavana, et j'ai appris, vient de publier, superviser deux recueils de textes de Cavana dont elle va nous parler.
Avant d'être la secrétaire, j'étais surtout une amie et la complice. On disait complice.
On disait pas secrétaire, je suis d'accord, ça choque.
Et c'est notre amitié qui a fait qu'on a décliné en projet, parce qu'avec Cavana, c'était toujours le travail, donc on s'est mis à travailler ensemble et à faire des anthologies, voilà. Et du coup je continue maintenant qu'il n'est plus là, par fidélité.
D'accord, et alors quelles sont ces deux nouvelles, ces deux petites anthologies textes, on pourrait dire ?
Effectivement, vous parliez de deux rééditions, en fait c'est deux livres, deux compiles, de ses textes dans Charlie Hebdo et dans Harakiri Hebdo, en sachant qu'il y a un inédit dans cette anthologie. C'est le dernier qui restera, se tapera toutes les veuves. L'idée étant de réunir toutes les nécrologies qu'il avait écrites sur 60 ans. Donc à la fois, on a l'écriture de Cavana qui est flamboyante, et on a aussi le récit de... presque historique, en fait, de 60 ans d'histoire française, puisque ça va d'histoire internationale, puisqu'en 60 ans, il en est tombé des gens. Il enterre deux papes, deux présidents, trois présidents, Pompidou, Mitterrand, De Gaulle, bien sûr, puisque De Gaulle, c'est la mort de De Gaulle qui est à l'origine de Charlie Hebdo. directement. Et l'autre recueil, Stop Crève, alors là, c'était pas mon idée, c'était celle de Jean-Jacques Pauvert, qui avait lui aussi eu l'idée de faire une compile de textes de Kavanagh dans les années 70, puisqu'il avait fait toute une série de textes qui traitaient de la mort, au sens où il fallait que tous les biologistes se mettent au travail pour arrêter ce phénomène qui était la mort. Alors, c'est pas l'immortalité en elle-même qui souhaitait, mais c'était la fin du délabrement physique, puisqu'il haïssait la vieillesse. Et voilà, donc il y a l'anthologie qui était parue donc chez Jean-Jacques Pauvert, qui est rééditée mais complétée, puisque ça se termine dans les années 75, mais de 75 jusqu'à sa mort, ça revenait régulièrement, à peu près tous les 5 ans, il réécrivait un texte sur cette idée. Donc avec l'éditeur, on a eu l'idée de compiler, et ça, donc ça s'appelle « C'est pas fini » et c'est la deuxième partie du bouquin. Et on a retrouvé un biologiste qui, à l'époque, avait rencontré Kavanagh, parce qu'il avait adoré le bouquin, il était étudiant en biologie, et aujourd'hui, il nous fait la postface et il revient à ça, c'est très chouette. Et pour terminer sur les deux livres aussi, quand j'ai eu l'idée de « Le dernier qui restera se tapera toutes les veuves », donc l'anthologie des nécros, je me suis dit « Mais qui reste-t-il de l'équipe ?» Et tout de suite me sont venus les noms de Delphée de Thon et de Willem. Donc je me suis dit « Vite, vite, vite !» Et j'ai demandé la préface à Delphée de Thon, qui fait quelque chose de très rigolo, et les dessins de couverture des deux livres à Willem, qui, et tous les deux ont accepté avec une gentillesse. Dès que c'est la chance, quand on travaille autour de l'œuvre de Kavanagh, tout le monde est heureux de me dire oui, donc j'en profite.
Et donc le titre du livre, ça, c'est sorti de la nécro de Reiser.
Exactement. Ouais.
Et donc on a Reiser, on a Topor, on a GB.
On a toutes ces figures historiques que j'ai citées, qu'il aimait ou qu'il n'aimait pas, mais on a aussi et surtout tous ceux qu'il aimait profondément, tous ces gens de Harakiri. Donc ça va de Fournier à Reiser, de Choron à bien d'autres. En fait, c'est vraiment un mélange de types d'écriture, de types de... Puisque, comme je disais, il enterre les gens qu'il aime profondément. Et là, on découvre toute la plume délicate et pudique de Kavanagh. C'est peut-être, à mes yeux, les plus belles et les plus courtes. Et, enfin, jamais il appuie sur le... Enfin, je vais pas définir le talent littéraire de Kavanagh. Et puis, on a les nécrologies plus rentre-dedans, plus cruelles dans l'esprit Harakiri. Et en sachant que même quand il est cruel et que c'est des gens qui ne l'aiment pas forcément, c'est jamais haineux. Et je crois que ça définit aussi Kavanagh, à la fois une pudeur pour les gens qu'il aime et un humour féroce, bête et méchant comme Harakiri, qui est jamais des basses attaques et des méchancetés gratuites.
Voilà. Ça nous donne une belle image de l'époque. On peut penser, par exemple, si on pense à un salon Diderot sur la peinture du XVIIIe siècle, on va avoir une assez belle image de la peinture du XVIIIe siècle. Et là, de la même façon, on a une belle image de ce qui est aussi gravité autour de ce milieu. Par exemple, on a une nécrologie de Pollack. Et donc, on pense toujours à une émission de Pollack qui a débordé, où ils étaient tous, et c'était la fin de...
Droit de réponse.
Oui, c'était droit de réponse, et puis c'était la fin de l'un de leurs
journaux. Bien sûr, qui fait aussi l'objet des nécrologies. On s'est demandé à un moment, il y a les hommes célèbres, des écrivains, des politiques, il y a les amis, il y a aussi les animaux. Donc on s'est demandé si on mettait les animaux. On a mis les animaux que Kavanagh chérissait. Et on a mis aussi, et ça fait le lien entre les deux époques de Charlie, la grande époque avant Val et la deuxième époque, en mettant la nécrologie de Charlie Hebdo. Et ça donne aussi l'objet d'un texte qui est aussi poignant que les autres, où il revient sur la fin du journal qu'il aimait tant.
Oui, bien sûr. Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce qui paraît... Il y a Mesrine, par exemple, aussi, sur le portrait de l'époque. Donc, parce que si on pense Mesrine, on pense Champ Libre, on pense l'assassinat de Lebovici. On va trouver, en tirant sur un fil, on va... Alors, il y a Jean Rostand, ça, c'est déjà... Je ne pensais pas qu'il était mort du vivant de Cavanaugh.
Cavanaugh a eu 100 ans cette année. Et on oublie que, ouais, c'est... Ça date. Et il y a sa date.
Et donc, il y a un chapitre qui s'appelle... Enfin, une petite nécrologie qui s'appelle Malraux, Gabin, Queneau et Calder.
Ah là, il en a mis 4, je crois que c'est le titre de la chronique. C'est...
Groupez vos nécrologies, on vous fera un prix.
Voilà. Et oui. Il en a eu 4 dans la même semaine et 4 illustres. C'est qui, Malraux?
Calder.
Gabin et...
Queneau.
Et Queneau.
Oui.
Donc voilà, et là, il en a fait un lot de 4.
Il naît en 1924
Cavanaugh ?
Oui.
23.
23, en 1923, donc oui, c'est pas...
100 ans.
Et puis il y a Franco, hein, donc là aussi. Alors ça, c'est une autre chose, c'est vraiment la politique au sens large, quoi. Pompidou, Franco...
C'est ça.
Le pape...
Deux papes.
Donc ça donne une belle idée de l'époque.
Bah oui, hein. C'était ça. L'idée, c'était aussi ça. C'est à travers Cavanaugh de... Bah oui, il y a cette idée de balayer l'époque. Il y a aussi, et c'est intéressant sur le plan presque, comme je disais, historique, mais aussi la plume de Cavanaugh qui évolue, l'âge qui vient, et tout ça, ça justifie pleinement ce recueil.
Et donc, l'autre, donc, ces fréquentations de scientifiques, là, quels sont les scientifiques qui avec lesquels ils discutent de la possibilité de l'immortalité? Au départ, ça fait un peu Montaigne. Il démarre sur une espèce de questionnement métaphysique.
Bah,
sur
c'est ça. C'est...
Le rapport de chacun à sa propre mort. Hein. Ça fait penser
à Cavanaugh. Cavanaugh était toujours en train de s'interroger. C'était un vrai autodidacte. Et il passait son temps à lire. Il n'aimait pas lire les romans. Ou si peu, s'il lisait. Il lisait Diderot. Mais avant tout, il se gavait de livres scientifiques, de sciences, que ce soit des biologistes, que ce soit des physiciens, que ce soit des... Il adorait ça et il avait une telle, comme je disais, une telle détestation de la vieillesse et de ce corps en fait c'était avant tout un amoureux de la vie et c'est pour ça qu'il aimait pas la mort et donc il s'est pris vraiment de passion pour ce combat et pour lui il fallait que tous les biologistes s'y mettent, que tout l'argent ne soit pas mis dans des bombes ou dans mais aille dans ses recherches pour l'idée c'était que la vieillesse c'est un peu une maladie et que on peut et ça c'est une réalité on peut en travaillant sur le processus de vieillissement on pourrait. Aujourd'hui, ça a beaucoup avancé, et on l'apprend en lisant le truc, mais il y a cette idée qu'il y a sûrement quelque chose à faire pour que le corps, pour arrêter le décrépitement. Non, c'est pas ça le mot, que le corps arrête de partir en couille.
Ouais.
Je trouve plus le mot décrépit. Comment on dit? Aidez-moi. Décrépitement? Non, décrépitude. Décrépitude.
Ouais, ça,
il faut le faire le travail toute seule.
Ouais. Et donc, c'est la postface de...
Du biologiste qui s'appelle Lionel Simoneau et qui est maintenant, quand il a rencontré Cavanaugh, il était un jeune étudiant et maintenant, il est un professeur émérite.
Et donc, la problématique a totalement changé. Il y a le transhumanisme, il y a des dimensions nouvelles qui sont arrivées dans cette problématique qui était un vieux truc. Enfin, c'était vraiment qui avait une orientation métaphysique et maintenant elle est devenue totalement physique, la question.
C'est vrai.
D'abord, on a un allongement de la vie en général et puis on a effectivement, de A à Z, les références ont totalement changé, quoi. On est un petit peu dans la disserte de philo, là, sur la problématique.
C'est ça.
Et maintenant, on est passé à la science.
C'est ça. Mais au-delà de ce débat... scientifique. Ce que j'aime aussi dans ce recueil, c'est la plume de Cavanaugh, parce qu'il est tellement en colère et contre cette idée que lui, il va vieillir et il va devenir un vieux truc qu'il déteste, qu'il y va. Il y a des passages qui sont délicieux sur voilà, à condition d'aimer la plume de Cavana, on se régale parce qu'il est là, il a pas de limite, il y va et bien pour lui trouver des contre-arguments, c'est un peu difficile, il les passe tous en et voilà. Donc
et donc dimanche, il y avait deux auteurs qui racontaient leurs origines italiennes, deux personnes de 72 et 75 ans, quelqu'un qui a fait un dessin animé et quelqu'un qui a écrit un livre, et donc ils ont parlé de Cavana. Et je pense à ça parce qu'il l'évoquait en tant que styliste et aussi sur le fait que Rital était une insulte très grave et qu'après le roman de Cavana, c'est devenu dans le langage courant et ça a cessé d'être une insulte. Donc c'est comme dans les mouvements révolutionnaires, hein, quand on s'appelle les sans-culottes ou les impressionnistes, c'est un petit peu l'idée. Ça a moins bien marché dans le cas des salopes.
Quand même, ça reste
un terme qui vibre. Mais si on prend impressionniste, par exemple, c'était une insulte.
Ah oui.
Et donc, on a un peu de peine. Enfin, c'était un qualificatif dépréciatif. Hein, c'était, au lieu d'avoir la rigueur du dessin, on avait des vagues impressions. Et donc, c'est devenu effectivement un compliment. Mais les exemples sont multiformes. Enfin, il y en a beaucoup. Et Cavana est reconnu comme styliste. C'est limpide, il ne fait jamais d'effet, il y a très peu de qualificatifs, quasiment aucun adverbe. Je ne sais pas si vous avez révisé le...
Ah non, mais ça c'est impressionnant. Et puis c'est ce qu'il disait, tous ses conseils quand on lui demandait des conseils d'écriture, c'était ça. C'était vraiment de couper. Et d'ailleurs, il suffit de voir ses manuscrits, il écrivait à la main. Il n'y a même pas de rature, tellement dès le début, c'est un premier jet. Et un premier jet, ça lui ressemble d'ailleurs. Il avait les pieds sur terre, il était simple. Mais c'est peut-être en littérature ce qui est le plus difficile, c'est de faire simple. Et sinon, pour revenir sur juste Stop Crève, ce que je disais, dans la deuxième partie, on a repris les chroniques jusqu'à sa mort. Il revenait régulièrement sur cette thématique. Et dans les années 80, par exemple, il revient là-dessus et il écrit « Voilà ce que j'avais à dire en ce jour des morts solennels et glacés. Merde aux morts, merde aux vieux, ces morts vivants, merde à ceux qui refusent de refuser, à ceux qui ne veulent même pas envisager, même pas rêver, merde d'avance à moi pour quand je serai ça, puisque j'ai pas ouvert assez ma grande gueule, pas avec assez d'acharnement, assez de conviction, de compétence, puisque je ne vous ai pas mordu au cul assez fort pour vous réveiller. Oui, tu répètes toujours la même chanson, quoi, pardi, et les autres. Écoute-les donc parler de la mort et dis-moi si c'est nouveau. » En fait, c'est ça, il était un peu déçu que ça passe pour une lubie et que personne se prenne au jeu et vraiment s'attaque à ça.
D'accord, merci. On va écouter un petit morceau de musique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Regarde plus la tête.
Et voilà, donc nous sommes dans La vie est un roman sur Allegre FM 93.1 et on vient d'entendre Stupéflip depuis que je fume plus de shit. Et donc j'étais à une exposition qui s'appelle Amour 4 qui a lieu au 73 rue des Haies ou des Grandes Haies. Enfin, c'est au-dessus de Buzenwald, là, c'est un peu après Nation. Ça s'appelle Amour 4, il y a 50 exposants, je vous recommande l'exposition. Et Julien, le chanteur qu'on vient d'entendre, m'a bien plu. J'espère l'inviter bientôt sur Allegre FM pour qu'il nous raconte les aventures de Stupéflip, qui est un groupe de post-punk assez agressif et des plus sympathiques. Et maintenant, nous allons parler dans le même genre post-punk d'un livre qui se passe à Istanbul de Pierre Fréa, et qui s'appelle Bella Ciao Istanbul. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'une histoire qui se passe donc à Istanbul. Moi-même, je vis à Istanbul, entre Istanbul et Paris. Et donc, un peu naturellement, parce que c'est quand même... Écrire des romans, c'est un peu... Voilà, c'est pas quelque chose que... C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Donc, ça s'est imposé de parler d'Istanbul. Mais de créer une histoire, parce que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas grand reporter, ou alors grand reporter de l'âme, mais pas d'effet politique. Donc j'ai eu envie, avec le confinement, j'étais bloqué, tout ça, et donc j'ai eu envie de faire le bilan un peu de mon ressenti autour de cette ville, et plutôt que du pays, parce que, non, je ne parle pas de la Turquie, je parle d'Istanbul, c'est quand même différent. Istanbul est dans presque un pays à lui tout seul. Donc, j'ai choisi un narrateur un peu critique, un peu désagréable, parce que j'avais envie de remuer des choses qui m'ont paru importantes au fil des années de ma présence en Turquie, en Istanbul, et qui étaient évidemment liées à la politique, je ne peux pas le cacher. En plus, j'habite un quartier qui est ultra conservateur, vraiment traditionnel, vraiment Constantinople, où il y a partout des églises abandonnées, des synagogues, des palais de l'époque byzantine, qui sont pas restaurés, comme si on voulait surtout pas les restaurer, comme si on voulait effacer cette mémoire. Et j'avais tout le temps l'impression, j'ai toujours l'impression, quand je me promène dans ce quartier, donc avec ce spectacle incroyable de tous ces monuments qui sont à l'abandon. Et alors, on peut pas les, apparemment, ils peuvent pas les, on pourrait dire, mais pourquoi ils les rasent pas? Puisque finalement, ils en font rien. Bon, alors je crois que c'était pour des questions juridiques, en fait. Il y a des synagogues, bon, probablement, qui appartiennent à Israël, à l'État d'Israël. Pareil pour les églises, beaucoup appartiennent à la Grèce. Donc, bref, il y a des questions juridiques. Donc, on efface, on restaure pas, on ne rappelle pas aux gens, finalement, leur histoire ou leur passé. Et voilà, donc c'est un spectacle. Moi, j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelqu'un, quoi. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelqu'un. Quand je me promène, il manque les Grecs, il manque les Arméniens, il manque les Juifs. Ils sont tous partis. Après, justement, Cavana est né en 1923. C'est l'année du traité de Lausanne.
C'est la naissance de la Turquie moderne.
C'est la naissance de la Turquie moderne. On fête le centenaire, là. Et donc, c'est une date en même temps qui est bon, forte, pour les Turcs. Mais c'est aussi une date qui marque quand même le début du départ. Donc, il y avait déjà un petit peu commencé de populations qui étaient là depuis des siècles. Et donc, des siècles.
Moi, j'avais un beau-père arménien, donc j'allais avec lui pour quand il renouvelait son passeport Nansen. Et donc, vous en parlez assez peu, des Arméniens, vous insistez plutôt sur les Grecs. Donc, oui. Ce qui est un sujet que je connais moins, parce que par la force des choses, je connais bien le sujet arménien. Et donc, je ne sais pas, parlez-nous des Grecs. Donc les Grecs sont chassés, il n'y a pas, oui, de génocide des
non.
Grecs.
Non, ce n'est pas un génocide, jamais. C'est là où c'est compliqué, où c'est, justement. On ne peut pas résumer, ce n'est pas comme ce qui s'est passé en Allemagne ou des choses comme ça. Pas du tout, du tout, du tout. Les choses se sont faites, finalement, il y a eu beaucoup de départs volontaires. Par exemple, la communauté juive, il y a eu énormément de départs volontaires.
Mais disons, dans le cas des Arméniens, ça compte quand même. Il y a du nombre. C'est fait à l'arme blanche, mais il y a du nombre.
Oui, mais pas...
Et c'est les Kurdes qui les tuent, en plus.
C'est pas Istanbul. Istanbul, moi j'ai des amis arméniens... Là, comme ça, qui sont à Istanbul et qui ont jamais, voilà, qui sont là. Donc Istanbul n'a pas été concerné par la question arménienne, du tout. Alors les Grecs, oui, les Grecs à partir de, donc finalement, ce traité de Lausanne qui était quand même une gifle pour, qui a été validé par la France et le Royaume-Uni, qui était quand même une gifle pour les Grecs et pour les Kurdes. Et pour les Arméniens, parce que l'Arménie est devenue un territoire, voilà, c'est réduit à peau de chagrin. Donc, et les Grecs, bon, pareil, je veux dire, les frontières de l'actuelle Turquie, il y a eu beaucoup de départs autour de la mer Noire. Il y avait des communautés grecques et très importantes autour de la mer Noire, à Istanbul. À Istanbul, maintenant, on estime qu'il y a à peu près 3000 Grecs. Et encore, c'est pas vraiment... dans le quartier où j'habitais, d'ailleurs, je parle de ce personnage qui s'appelle Despina, et avec ses deux sœurs. Bon, ça, j'ai inventé les deux sœurs, mais c'est pas grave. Et comment dire... Alors, elle me fascinait, quoi, parce que je la rencontrais souvent dans un café et tout. Bon, parce que là, j'avais l'impression, quand je parlais avec elle, de repartir en Europe avec elle, parce que de repartir en Grèce, quoi, en quelque sorte. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'est que quand je l'interrogeais sur son attachement, quand même, à Istanbul, il était très fort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une Grecque d'Istanbul. Elle n'a pas envie d'aller à Athènes. Elle n'a absolument pas envie de parce qu'elle ne connaît pas Athènes. Athènes, ce n'est pas sa ville. Donc c'est dire à quel point c'est une souffrance terrible. Parce qu'en même temps, ces gens-là, ils n'ont pas vraiment droit au chapitre, quoi. Donc, ils sont contre le régime, ils sont contre ce régime qui est quand même fondé sur une religiosité incroyable. Enfin, moi j'habite ce quartier, justement, de Fatih, où c'est vraiment très, très important. Et c'est extrêmement déroutant, quoi, pour quand on est de l'extérieur et tout. Moi, j'ai été très dérouté par tout ça. Et au début, on est fasciné parce que on se dit, mais quoi, bon, voilà, il faut être ouvert d'esprit, il faut accepter tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis, peu à peu, on se sent quand même un peu embarrassé, quoi, de pas pouvoir échanger. En fait, il y a une sorte de mur avec ce conservatisme et ce traditionalisme. Quand il y a une librairie dans mon quartier, elle est religieuse. Vous n'allez pas trouver des romans. À la rigueur, de la poésie. Parce que bon, la poésie et la religion, ça peut aller ensemble. Donc tout comme ça, ça pèse. Au bout d'un certain temps, ça pèse. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, européen, sophistiqué, entre guillemets, je veux dire habitué. J'ai choisi le mauvais quartier pour Istanbul.
Et donc vous y restez. Il y a une espèce de complaisance dans l'exaspération. Et le roman est assez réussi parce qu'il est exaspérant aussi. C'est-à-dire qu'il il recule toujours le moment de donner... Il est très chiche en information, il est très tenu, il est très tendu. Il arrive bien à rendre compte de l'exaspération. On peut penser à une dimension kafkaïenne dans la logique du traitement de l'a priori. Donc je dis « je vais faire ceci ». Et je le fais jusqu'à l'usure, je ne sais pas, ça me fait penser à, je sais pas, l'invention de la musique de dodécaphonique. Quelqu'un qui va assister au premier concerto pour violon de Schoenberg, et qui se dit, il est complètement fou, c'est un sadique. Pourquoi il fait ça, quoi? C'est complètement dingue. Et donc, et tout est très étrange dans le fait que c'est décalé. C'est très, très... Alors, il y a le mot serbe, moi, par exemple, qui m'a beaucoup choqué. Mais c'est ma propre relation. C'est mon vécu, mon idée que je me fais des Serbes. Donc, le mec, il est censé être d'origine serbe, puis il va critiquer les Turcs. Et pour moi, ça, c'est vraiment très, très bizarre, parce que le serbe est mon autre absolu. Je suis bruxellois. Et donc c'était les macros, tout ça, c'était la violence, et c'était une violence assez fermée. C'est un petit peu la description dans le milieu truand où j'ai grandi et de prostituée, le serpe était pour moi ce que vous décrivez comme religieux turc, c'est-à-dire mon autre absolu. Et donc je me dis, putain, un serpe qui va critiquer les Turcs, c'est très très fort. Si vous voulez, je peux lire une page de votre livre où on a une espèce de définition aussi qui se rapproche assez, de, en tant que Belge, de mon rapport à l'histoire. Enfin, je vais juste lire un paragraphe, parce que sinon ça va être trop long. Mais donc, il discute avec les Grecs, là, Despina cherche à ses mots, Akan vient à son secours, c'est les personnages. Créer une nation, lui donner la légitimité de la durée, élaborer des stratégies de mensonges et de semi-vérités. Touche finale, terroriser les éventuels sceptiques en les menaçant de prison. Intoxiqués par la propagande organisée à l'échelon national, les citoyens gobent dès l'enfance le roman national. Pour les aider, on interdit la diffusion en turc d'opinions divergentes, de témoignages. On crie au complot tous les trois jours. Le peuple prend l'habitude de croire à ce qu'on lui dit. Comment une grande nation pourrait-il mentir ? Impossible. La bonté même, rappelez-vous, dès l'école, on martèle. Le roman national, le conte de fées des migrations, trouve son apogée dans les manuels scolaires. Et donc, c'est cette remise en cause de l'histoire, mais qui est portée par, de l'extérieur. Parce que moi, c'est ma propre histoire qui m'a mis en deuil le jour où j'ai découvert que c'était un tissu de mensonges, mais absolument invraisemblable. Et donc, ce qui est formidable dans votre roman, c'est qu'on a tendance à toujours pratiquer l'ironie. Et là, il n'y a pas d'ironie, c'est l'agressivité, c'est une agression contre quelqu'un d'autre. Ce qui paraît mal poli, comme dirait quelqu'un d'un peu âgé à vous. Non, la parole est à la défense.
Non, c'est vrai, le côté kafkaïen, c'est ce que j'ai ressenti. Moi j'étais vraiment... Et même personnellement, bon, c'est de la fiction, j'ai inventé des choses, évidemment. J'ai exagéré certaines choses, mais je les ai exagérées parce qu'elles étaient là en même temps et que j'étais pas au courant de tout. Un jour, j'ai vu une scène devant mes fenêtres, comme ça, et brutalement, il y a eu une dizaine de voitures de police qui ont débarqué. Et puis... j'ai pas compris pourquoi, et il y avait un homme qui était là, par terre, il était tabassé par... J'ai pas compris pourquoi il était tabassé, mais j'ai pas osé faire une photo, par exemple. J'étais au rez-de-chaussée, j'aurais pu, mais j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais si je vais faire une... En France, tout le monde aurait fait ça, hein, pour témoigner après de comment la police tabasse, vous voyez. Bon, là, non, on a peur. Donc, c'est pas possible, parce que là, on sent qu'on a affaire à quelque chose qui est énorme. Et pensez, par exemple, que... Donc, j'ai appelé ce livre « Bella Ciao, Istanbul ». Bon, « Bella Ciao ». Pourquoi « Bella Ciao, Istanbul »?« Bella Ciao, chant révolutionnaire ». Mais il y a une raison, une autre raison pour laquelle j'ai appelé ce livre ainsi. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé à la fin, parce que c'était en 2021, et il y avait le Ramadan. Et puis, il y a une nouvelle incroyable qui est arrivée, à savoir que le système de diffusion de plusieurs mosquées d'Izmir, donc pas Istanbul, d'Izmir, ça j'ai transposé, bon, avait été piraté, et qu'on avait entendu dans le ciel d'Izmir, en même temps que l'appel à la prière, on avait entendu l'hymne révolutionnaire Bella Ciao. Et ça m'a bouleversé, en fait. Ça m'a bouleversé, parce que je me suis dit, c'est quand même fou, en arriver là, qu'ils en soient à ce point, dans une impasse, que la seule chose qui leur reste, c'est d'aller trafiquer un système de diffusion et de mettre Bella Ciao. C'est enfantin, c'est puéril, c'est même ridicule, par certains côtés. Mais ça exprime l'impuissance qu'ont ces gens, et c'est pas des radicaux. Bon, évidemment, ils ont été taxés de tout, hein, révolutionnaires, machin. Mais en fait, quand vous pouvez rien faire face à un pouvoir, qu'il y a eu les événements de Gezi en 2013 à Istanbul, moi j'étais là, j'étais là-bas à ce moment-là. Bon, ça a duré un mois. C'était un mouvement magnifique, et c'était un mouvement qui était juste, qui était absolument juste, parce que c'est un des rares parcs du centre d'Istanbul, et M. Erdogan voulait faire une caserne, ou je ne sais pas, un truc militaire, là, cet espace vert. Donc, évidemment, les gens se sont révoltés, mais pacifiquement. Ils ont occupé le terrain, il y avait des tentes, il y avait une atmosphère très 68 art, on va dire, des choses comme ça. Mais comment ça s'est terminé ? Des morts. des gens qui ont perdu la vue bah, à cause des bombes lacrymogènes, etc. etc. Et depuis...
Et puis l'autre qui est en prison, là, le philanthrope.
Oui, bien sûr. Ah oui. Alors lui, voilà. Et donc, depuis, ce qui est grave, c'est que plus personne ne manifeste. Comment vous voulez manifester ? Moi, j'ai participé à une manifestation, il n'y a pas longtemps, 2019, 2020 à peu près. Et en fait, on était assez peu nombreux, mais il y avait beaucoup plus de police que de manifestants. On était dans une petite rue, on était bloqués par la police des deux côtés, mais c'était moi, je n'avais jamais vu ça. J'étais très impressionné par la violence, parce que alors que on a une image d'Istanbul finalement comme, et c'est vrai aussi, d'une ville finalement où il y a une certaine douceur, voilà, on boit le thé, machin, il y a les hammams, etc., etc., on mange des loukoums, ou des conneries, etc. Et en fait, derrière tout ça, il y a une violence ethnique, politique, qui est folle. Nous, on croit qu'en France, on l'a, cette violence, mais on l'a pas. On l'a pas. Il faut aller à Istanbul pour comprendre que là-bas, elle est vraiment... Et à tel point que plus personne ne bouge. On bouge pas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu... Mais c'est pour ça que ça m'a beaucoup ému, cette histoire de Bella Ciao et ces gens qui ont fait ça. Évidemment, le gouvernement a dit tout de suite « Ah, on va chercher les coupables, tatata. » Bon, finalement, c'est tombé à l'eau. Et je pense que, d'une certaine façon, les imams d'Izmir probablement n'ont pas dû vouloir poursuivre parce qu'ils se sont rendus compte, finalement, au fond, de la détresse et de la souffrance qu'il y a derrière. Et je pense, parce qu'on n'en a plus jamais entendu parler. Alors que, bon, Izmir, c'est une grande ville, mais enfin, bon... On peut trouver quand même, si on cherche un peu les coupables, de gens qui font une chose pareille. Hein. À mon avis, ils le savaient, les imams et tout ça. Et non, ça, il n'y a pas eu de suite. Bon, ce qui explique aussi la complexité du système turc, je veux dire qu'il y a aussi beaucoup d'humanité. Je suis sûr que les imams, après un instant de colère peut-être, n'ont pas voulu poursuivre. Donc, il faut avoir ça à l'esprit aussi. C'est une société qui est très divisée.
Et donc, vous avez un personnage de française qui fait l'apologie de la Turquie tout le temps. C'est quoi sa fonction
Mais écoutez, en fait, c'est le genre de personnage en fait, qui finalement... C'est à cause de gens comme ça que j'ai été piégé par la Turquie. Même si c'est un pays que j'aime énormément, c'est dans mon cœur, ça le restera toujours. Mais c'est vrai qu'il y a des, dans la communauté française, parmi les expats, il y a des gens qui vendent. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas pour de l'argent, hein. c'est symbolique, mais qui vend vraiment là une certaine Turquie idéale, absolument parfaite, celle d'Atatürk. Et moi, j'ai été pris, moi, comme je suis un peu finalement assez bon enfant, un peu naïf, je suis tombé dans le panneau, quoi. Et donc, d'une certaine façon, j'étais un petit peu énervé. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu besoin de ce personnage pour mettre en garde, quoi. Je veux dire. On peut pas comme ça faire abstraction de gens qui ont en Turquie, qui actuellement encore en Turquie sont dans les prisons, une femme qui est décédée l'année dernière, une chanteuse, parce que elle a fait une grève de la faim et le gouvernement n'a rien fait pour la sauver.
Une kurde.
Oui, une chanteuse, oui, et il y en a plusieurs. J'ai aussi une amie, Pinar Selek, elle n'est pas kurde, elle, qui est réfugiée politique en France maintenant depuis 2015 ou 2016. Et qui a été accusé d'un crime de sang extrêmement grave, mais pour rien. Et elle a été blanchie, mais il y a toujours eu... Parce que ça se passe comme ça, on vous êtes blanchie une fois, mais il y a un procureur qui prend la relève, un autre procureur qui prend la relève. Et voilà, parce qu'ils ont intériorisé comme ça une certaine image de la Turquie, les procureurs et tout ça. Et donc, le gouvernement... C'est même, donc, il y a un respect des... Il y a une division des pouvoirs entre le pouvoir politique et la justice. Hein, il y a pas de souci là-dessus. Simplement, ils sont aux ordres, d'une certaine façon, du pouvoir. Et donc, Pinard, elle est toujours menacée et condamnée.
Je vais lire un autre petit paragraphe de votre livre pour donner une idée aux gens de votre style, mais c'est pas les deux paragraphes que j'ai lus sont justement pas représentatifs du style. Ils ont un contenu, mais enfin bon, c'est les deux paragraphes avec contenu. La dernière trouvaille de mon cerveau, les Turcs que je croise dans la rue forment le peuple le plus narcissiste au monde. Ils sont programmés pour l'être et comme ils sont dociles, ça fonctionne. Un de ces effets pervers, le jeûne de la bonté travaille parfois en dépit du bon sens. Le roman national qu'on impose dès l'enfance ressort du plus banal narcissisme. Par manque de confiance en soi, il vibre pour la patrie jusqu'à la névrose. Le phénomène provoque coup d'État et répression en série. Une tentative de renversement par décennie en moyenne. Un drôle de couple se forme dans la conscience nationale. Le narcissisme s'appuie sur la culpabilité, couple solide qui tient depuis presque un siècle pendant que le reste du monde contemple. Là, Narcisse ouvert sur l'extérieur, cajoleur, dit la parole officielle, l'autre, sombre, replié sur lui-même, taciturne, travaille dans l'ombre, ne sachant où aller.
Oui, oui, c'est triste, hein. C'est triste ça, parce que mon livre, c'est vraiment une interrogation sur le nationalisme et sur le danger du nationalisme quand il est porté à ce point par un pouvoir politique qui ne peut pas s'en passer.
Mais nous, on a une dimension, si on parle de nationaliste à nationalisme, on a cette dimension religieuse qui nous empêche de le penser. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose, l'islam et puis par exemple la religion catholique. Sans porter aucun jugement de valeur.
Non, bien sûr.
C'est vraiment des choses qui sont. On voit bien quand on est dans le Maghreb, par exemple, qu'on n'est pas. Dans le sud de l'Italie, enfin, c'est évident, quoi. C'est tout de suite évident.
Alors, oui, sauf que la Turquie, c'est encore un cas à part
à
cause de
son
histoire.
C'est pas des Arabes.
Et surtout Istanbul. Ouais. Je parle même pas du reste de la Turquie, qui, à la limite, pourrait correspondre à ce que vous dites. Mais Istanbul, comment dire ?
C'était l'Europe, en fait.
Mais oui, et ça le reste. Je veux dire, ça le reste, parce que, l'esprit d'un lieu, ça existe. Donc, il y a des fantômes. Ça m'a obsédé.
Est-ce que le narrateur est masochiste ? Pourquoi est-ce qu'il vit dans un quartier traditionnaliste ?
Parce qu'il s'est trompé. C'est-à-dire
que... Pourquoi il ne déménage pas ?
Il envisage. Enfin, je veux dire, en parlant de moi, c'est clair. Mais en fait, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, d'une certaine façon, les quartiers européens d'Istanbul, au fond, pour moi, ils n'ont aucun intérêt.
Ils sont frelatés.
Mais oui. C'est-à-dire que moi, chez Paris, attendez... Je vis à Paris, j'ai la chance de vivre à Paris. Qu'est-ce que j'ai besoin des quartiers européens d'Istanbul ? Ils me touchent absolument pas.
Donc vous êtes attiré et en même temps repoussé par ce traditionalisme.
Mais bien sûr.
Il y a quelque chose qui vous parle.
Totalement. Mais bien sûr. Parce que là j'ai des moyens de comprendre des choses. Parce que qu'est-ce que je vais comprendre en habitant dans un quartier européen d'Istanbul ? Bon, que les gens sont opposés au régime du président Erdogan, ok, mais je le savais déjà. Donc ça ne va rien m'apporter de plus. Tandis que dans ce genre de quartier où je suis, là, c'est une Turquie qui est complexe. Donc avec des gens qui se sont, souvent d'ailleurs d'origine arménienne, pour un certain nombre d'entre eux, qui ont été convertis, qui se sont convertis à l'islam. Il y a dans mon livre un personnage comme ça. Et donc ça, c'est quand même très intéressant et très riche. Donc j'ai trouvé qu'il y avait plus de richesse, d'une certaine façon, dans ces quartiers très authentiques d'Istanbul.
Oui, merci. Donc, je crois qu'on va arrêter là, si vous êtes d'accord. Tu voulais dire quelque chose encore, Virginie ? Non ? Vous vouliez parler de Cavada ? Non ?
On va parler pendant des heures encore.
Oui, on peut, bien sûr. Je crois qu'on va arrêter là. Donc, on va passer l'antenne à Cause Commune, vu qu'on est mardi. Et là, on va entendre le générique de fin de l'émission.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.